Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Jean-Marie Delarue vient de terminer son mandat de contrôleur des lieux de privation de liberté, fonction qu'il avait inaugurée il y a 6 ans. Cette forme de contrôle était assez nouvelle et nous voudrions profiter de ce départ pour dresser en quelque sorte un bilan de l'action du contrôleur et pour réfléchir plus généralement sur la fonction de contrôle dans l'État. Un contrôle sans pouvoir de contrainte n'est-il qu'un ersatz de contrôle ? Les recommandations sont-elles suivies d'effets ? N'y a-t-il pas doublon, voire concurrence, avec d'autres fonctions internes de contrôle, au sens notamment aux inspections ? Et donc ce sont ces questions qui nous permettront d'aborder, de revisiter la fonction de l'État par sa périphérie, par son contrôle, par ses lieux de privation de liberté. Jean-Marie Delarue, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, 6 ans avec un profil qui était assez nouveau, parce que vous n'êtes pas une autorité administrative indépendante, pas comme on les entend d'habitude, mais quand même un tiers indépendant dans l'État. Quel bilan dressez-vous de vos fonctions ?
C'est un tiers indépendant, pas tout à fait dans n'importe quel État, c'est un tiers indépendant dans l'État régalien.
C'est ça.
Et je crois qu'après tout, c'est un miracle de notre démocratie de l'avoir accepté. Je pense que je me suis trouvé au long de ces 6 années, un jour aux États-Unis, où l'irruption d'un tiers indépendant précisément dans une prison américaine est absolument une chose incroyable, incroyable. J'ai fréquenté quelques pays d'Europe de l'Est où l'idée d'une autorité indépendante par rapport au pouvoir politique est absolument impensable. Bon. Donc, après tout, c'est pas innocent que notre démocratie soit parvenue à cela. Quand on voit, évidemment, la tête des fonctionnaires qui nous accueillent, on est convaincu que ça ne va pas tout à fait de soi. Donc, c'est un bon point. Alors, tiers indépendant, vous avez mentionné les inspections. C'est pas la même chose de déléguer un fonctionnaire qui est à la charge de vérifier ce que font d'autres fonctionnaires et qui va rendre compte à un ministre, notamment dans le domaine régalien, d'un tiers indépendant qui va avoir pour instrument de mesure simplement... Les droits fondamentaux des personnes, puisque c'était bien là ma mission, c'était vérifier s'il est porté atteinte ou non aux droits fondamentaux des personnes. Donc à cet égard, je me différenciais, ou je crois que j'apportais quelque chose, avec mes collaborateurs bien entendu, d'inédit dans le paysage français.
Il ne s'agissait pas de vérifier le bon fonctionnement de l'administration, qui est la vocation d'une inspection. Là, c'était partir des droits fondamentaux, c'était ça qui était nouveau également.
Exactement. Et il y a une illustration assez forte de cela, c'est la demande que j'ai faite il y a 2 ans et qui a suscité polémique, à bon droit d'ailleurs, qui était d'aller voir aussi dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On m'a dit, mais il y a déjà des contrôles. Les contrôles qui sont faits dans les EHPAD aujourd'hui, c'est de savoir si le flacon numéro 8 est bien sur l'étagère numéro 2. Et si l'agrément qu'on a donné de fonctionnement à ces EHPAD, à ces établissements médico-sociaux, est bien rempli. Bon. Mon contrôle à moi, c'est autre chose. C'est de savoir comment vivent les gens et s'ils vivent avec leur dignité ou si les impératifs de sécurité, de préservation, de l'ordre public, etc., ne l'emporte pas sur la dignité. Bon. Et c'est autre chose, je crois, que tout ce qui existait avant comme contrôle.
C'est ça. Parce que l'idée de droit fondamental n'est-elle pas une idée neuve en France, paradoxalement ?
Si, elle nous vient d'Allemagne, cette idée, puisqu'elle nous vient même de la Constitution de la République fédérale allemande de 1949. Et depuis, elle a essaimé via le droit international dans les autres pays, et notamment, et tardivement, en France. Donc vous avez raison, nous avions une réflexion plutôt portée sur les libertés publiques, il y avait ses lettres de noblesse. Et nous étions centrés au fond sur le caractère irréprochable de notre République. Désormais, on a déplacé le curseur, et évidemment avec les événements de la Seconde Guerre mondiale, et on se situe beaucoup plus au niveau des personnes. Et au fond, que la République m'ait mandé pour protéger les droits fondamentaux des personnes, c'est une amorce de réconciliation entre ces deux sources.
Oui, et puis ce qui est frappant, c'est la dimension très pragmatique de qu'on regarde, qu'on lit, ce que j'ai fait, les différents rapports, on est frappé de ce que la dignité y est approchée de manière extrêmement concrète.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas un parti nouveau, celui-ci aussi, que de regarder les choses telles qu'elles sont et de cesser de regarder comme on aimerait qu'elles soient?
Oui, c'est le fameux dilemme de la Bruyère, hein, bon, à propos de Racine et Corneille. Moi, je pense que les administrations, le vice et la vertu à la fois de l'administration française, c'est le souci de la légalité républicaine. Et une fois qu'on a respecté cette légalité, le fonctionnaire s'estime quitte. À cette légalité, nous ajoutons, nous autres, un autre thème qui est celui de l'effectivité. Autrement dit, nous nous interrogeons sur non pas la loi, est-ce qu'elle est faite bien ou est-ce qu'elle est faite mal, mais sur son effectivité. Ou pour prendre des choses très concrètes, quand on visite un commissariat de police, il m'est absolument indifférent que le commissaire me dise « Mais vous savez, la personne en garde à vue, elle a droit à un petit déjeuner en vertu de la circulaire Sarkozy de mars 2003. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on lui a servi effectivement un petit déjeuner ? Voilà. Et là, en effet, on aborde quelque chose aussi qui est un peu étranger à la mentalité de notre administration, il faut bien le reconnaître, qui ne s'interroge jamais sur l'effectivité de la loi, sur la mise en œuvre de la loi. J'étais ce matin, pardon de ce rapprochement, au Comité national d'éthique, dont je suis membre, et on s'interrogeait sur l'application de la loi Leonetti sur la fin de vie de 2005, et on disait non, elle n'est pas connue, elle n'est pas appliquée. Nous sommes 9 ans après. Bon. Donc, je dirais que ça, le problème de la légalité républicaine a été notre problème essentiel pendant une bonne centaine d'années. Maintenant, il faut passer à autre chose.
Et passer à autre chose, ça veut dire regarder le fonctionnement concret. Je me souviens de votre premier rapport où vous aviez tout un passage sur les soutiens-gorge en garde à vue. Quoi de plus concret quand on a fréquenté un peu les questions de garde à vue, ce qui obsède les personnes gardées à vue, c'est la ceinture, les lacets, le soutien-gorge. Et ça, c'est c'était aussi le registre des gardes à vue, souvent mal tenu, voire pas tenu du tout. Donc c'est toute cette concrétude des droits qui est votre porte d'entrée dans les institutions.
Oui, je crois qu'il faut entrer dans ces droits-là. Alors on nous dit, mais au fond, ça s'arrête, les droits fondamentaux. C'est vrai que les frontières sont difficiles à tracer entre où finit un droit fondamental, où commence un droit qui n'est pas fondamental et où commence ce qui échapperait à la règle juridique. Mais ce qui est sûr, je vais vous prendre un exemple tout de suite, c'est que entre le respect de la dignité de la personne et l'indignité, là, la frontière est très, très claire. Vous savez, en prison ou quelquefois en garde à vue, il y a ce qu'on appelle des fouilles corporelles. Hein. Donc il faut déshabiller entièrement la personne et on examine un par un ses vêtements pour savoir s'il y a quelque chose de caché dedans. On regarde un peu dans les cheveux. La différence entre une fouille indigne et une fouille digne ne fait aucun doute. Elle est dans le ton avec lequel on parle à la personne, elle est dans la durée de l'opération, elle est dans les gestes qu'on fait faire à la personne, elle est dans la manière dont on fouille ses vêtements et dont on la regarde. Bon. Et ça paraît impalpable comme différence. Non, il n'y a aucun doute à avoir sur ce point. Donc, quand on entre dans le concret des choses, je crois que ça a une autre vertu, c'est que la différence entre indignité et dignité, elle saute beaucoup plus aux yeux qu'une réflexion abstraite sur jusqu'où va le droit à la vie familiale, par exemple, s'agissant des droits fondamentaux, où faut-il tracer la limite entre ce qui est normal et ce qui est... Bon, non. Quand on a le besoin de retrouver sa femme, la privation des liens familiaux est aussi assez facile à tracer, je crois. Donc, rentrer dans l'effectivité, c'est aussi avoir une conscience beaucoup plus nette de la dignité des personnes et des limites de l'ordre fondamental.
Alors, comment construire une institution ? Vous êtes conseiller d'État, donc vous savez ce que c'est qu'une administration, ce que c'est qu'une institution. Comment la bâtir à partir ou avec sans cesse à l'esprit cette idée de dignité ? Je m'explique. C'est-à-dire que le commissaire de police, le juge d'instruction, le procureur de la République, toutes les personnes chargées du contrôle, ils ne sont pas là au moment de la fouille.
Non.
Au moment de la fouille, c'est un corps à corps au sens le plus strict.
Exactement.
Comment est-ce qu'on garantit une institution alors que elle doit nécessairement s'en remettre à des personnes, à des fonctionnaires souvent d'un rang assez peu élevé et sur lesquels repose le véritable contact des justiciables, des citoyens avec ces institutions.
Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à votre question. Je pense comme vous que on dirait aujourd'hui la proximité, parce que c'est un mot tellement galvaudé, mais je l'emploie à mon tour, des fonctionnaires de toute poil de toute obédience avec le public, c'est par le biais de fonctionnaires d'exécution. Et au fond, c'est une tâche ça qui fondamentalement aussi n'intéresse pas beaucoup les responsables. Jamais un commissaire de police aujourd'hui ne descend dans le sous-sol du commissariat où se trouvent en général les geôles de garde à vue. Jamais, ou peu, si je puis me permettre, de chef de juridiction dans les geôles ou dans les dépôts des tribunaux.
Oui.
Ça ne se fait pas beaucoup. C'est un peu indigne. Et on sait très bien que le problème de la garde s'est confié à des gens qu'on n'estime pas nécessairement les plus qualifiés. C'est la même chose des emplois de guichet, au fond. Bon. Y a là une vraie difficulté. Et tout notre rôle, en effet, c'est de saisir la marge qui sépare, d'une part, la loi, le décret, la consigne, la note écrite, très, très importante dans l'administration française, du comportement que doivent prendre les fonctionnaires d'exécution pour tenir le coup dans un métier qui est un peu dévalorisé. Voilà. Et dans un rapprochement, le plus souvent aussi, je pense aux surveillants pénitentiaires, avec des gens issus du même milieu social qu'eux, mais qui ont fait des choix évidemment complètement différents. Puisqu'ils ont choisi la délinquance, les surveillants, eux, ont choisi en principe la voie de droit. Et donc, tout le problème de ces fonctionnaires d'exécution, c'est d'avoir à se saisir de tâches qui ne sont pas du tout celles prévues par les notes de service. Les notes de service disent « il faut empêcher l'évasion, par exemple ». Bon, il faut fournir, je l'ai dit tout à l'heure, un petit déjeuner, il faut enlever ou non le soutien-gorge. Le problème du fonctionnaire de base, c'est d'abord garantir sa propre sécurité, pas recevoir de coups. Et puis, c'est faire en sorte que la personne, elle ne nous cause pas trop d'ennuis, elle soit relativement calme, elle ne crie pas trop. Bon. Et puis, s'il faut aller voir une personne très, très excitée, éventuellement dangereuse, comment est-ce qu'on fait ? Bon. Toutes ces questions-là ne sont pas traitées par les notes de service. Donc, il y a une improvisation en quelque sorte, puis il y a des ficelles qu'on se repasse évidemment d'un collègue à l'autre. C'est pour ça que je dis souvent que la formation des fonctionnaires, c'est essentiellement la formation sur le tas qui importe, c'est pas la formation qu'on donne dans les écoles. Et c'est tout ça qu'il faut saisir quand on est au contrôle et quand on veut entrer dans la manière dont sont effectivement traitées, j'y reviens, les personnes qui sont privées de leur liberté.
C'est ça. Il y avait un psychiatre parlait autrefois des fondements cérémoniels du moi. Disant, et je trouve que l'expression est très parlante, disant finalement une personne qui est en difficulté, qui est en situation de détresse, comme le sont nécessairement les personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans des EHPAD ou qui sont en détention, en garde à vue, elle a encore plus besoin que les autres de ces petits fondements cérémoniels qui sont qu'elle continue de se considérer comme une personne. Comment sécuriser ces pratiques? Comment valoriser les bonnes pratiques et comment stigmatiser intelligemment les mauvaises.
Je crois que nous avons toujours pensé, en tout cas au contrôle, que les conditions de travail du personnel étaient indispensables pour comprendre la situation qui était faite aux personnes privées de liberté. Quand vous avez dans un couloir de détention, mettons 60-70 cellules, avec, pas 70 cellules, pardon, 35 cellules avec 70 détenus, si vous avez deux surveillants pour les prendre en charge, ou un, la situation change complètement. Donc je crois qu'il faut, pour aborder une bonne prise en charge des personnes privées de liberté, il faut d'abord donner des bonnes conditions de travail. Deuxièmement, il faut valoriser ces tâches, c'est-à-dire les rendre imaginatives, inventives et créer, je crois, des conditions très claires d'orientation, de finalité. C'est-à-dire, par exemple, à la violence, on ne répond pas par la violence. À la violence verbale, on ne répond pas par les injures. Bon. Et ça sont des choses qui sont aujourd'hui complètement battues en brèche, il faut le savoir. Hein. Donc je crois qu'il faut donner dans ces conduites très, très pratiques, non pas des ordres, non pas des consignes, mais des modèles, des exemples. Bon. Et puis je crois enfin que, bah, il faut considérer que ces métiers ont une grande importance dans la manière dont les métiers régaliens vont être perçus par l'opinion, tout simplement. On glose aujourd'hui sur les difficultés entre les jeunes de cité ou de banlieue, peu importe, et les policiers. C'est une histoire qui est très longue et qui se manifeste en effet dans la manière dont les uns et les autres se sont adressés la parole, par exemple.
Le tutoiement ou le vouvoiement.
Voilà.
Alors, vous insistez beaucoup d'ailleurs sur cette idée d'exemplarité, mais dans le fond, vous plaidez pour un retour avec les modèles, l'exemple, le principe, au détriment des process. Est-ce qu'on ne fait pas trop confiance aux process, aux procédures très froides et qui peuvent laisser passer l'essentiel, Jean-Marie Delarue ?
Je vais prendre un exemple que au moins les Parisiens connaîtront, mais je vais expliquer. Dans le métro parisien, il y a une sonnerie qui retentit, qui interdit de monter ou de descendre dans le wagon quand elle se met en marche. Pour les usagers du métro parisien, la sonnerie, le déclenchement de la sonnerie, c'est pas l'interdiction de monter ou descendre, c'est le moment où il faut commencer à courir pour monter ou commencer à courir pour descendre. Bon. Donc, entre la procédure et la réalité sociale, il y a plus qu'un abîme, ou en tout cas, il y a plus qu'un écart. Je crois que si se dire, quand on est responsable, qu'on fait une note écrite et qui va régler tous les problèmes, c'est s'illusionner soi-même. Et je crois que cette croyance-là, elle est beaucoup trop répandue dans l'administration française. Il me semble que dans les pays étrangers, on est plus attentif à la réalité des choses, ne serait-ce que parce que les principaux responsables ont commencé par être fonctionnaires d'exécution. Je pense à la police anglaise, par exemple. Bon. On est très très loin de ça, nous, dans notre société. Et pour parvenir à ça, en effet, il faut déconstruire l'idée que la procédure va tout régler. La procédure est nécessaire pour un traitement égalitaire, mais à condition qu'elle ait un sens, à condition qu'elle ait une réalité. C'est souvent décevant à cet égard.
Alors, vous avez cette phrase dans l'avant-propos du dernier rapport qui résume, je crois, cette idée de droit fondamental en disant son être, l'être de ces personnes qui sont retenues, détenues, ne se définit pas seulement par la maladie ou l'infraction, si dramatique soit-elle, elle se définit par ces droits-là, par cette aptitude à avoir des droits fondamentaux et comme une sorte de protection, de sphère invisible qui rend cet être précisément inviolable.
Je crois que c'est ce que nous ont valu la notion de droits fondamentaux que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que toute personne, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher socialement par ailleurs, je pense non seulement aux personnes privées de liberté, mais aux SDF, aux malades mentaux, enfin toutes ces personnes en grave difficulté, aux personnes âgées de plus en plus nombreuses, elles ont une dignité qui est quelque chose qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas porter atteinte sans nous méconnaître nous-mêmes. Et je crois que à cet égard, il faut bien faire sentir au personnel que ne pas respecter la dignité des personnes, c'est se méconnaître eux-mêmes dans leur rôle. Je vais vous prendre un exemple très simple qui m'est venu la semaine dernière lorsque, avec mes collaborateurs, nous échangions sur une visite que nous venions de faire dans un centre éducatif fermé. Il y avait là des gendarmes qui ramenaient un gamin mineur donc de ce centre qui avait fugué. Et donc, quand les gendarmes sont arrivés à proximité de la clôture du centre, tous les gamins qui étaient, eux, dans le centre, qui n'avaient pas fugué, se sont précipités vers la clôture pour. Et ils se sont mis à cracher sur les gendarmes. Qu'est-ce qu'ont fait les gendarmes ? Ils ont craché sur les gamins, à leur tour. Et je crois que ce faisant, ils se sont dégradés eux-mêmes. Ils n'ont pas seulement dégradé les enfants, ils se sont dégradés eux-mêmes dans leur rôle. Et la manière qu'ils ont eu de réagir est, à mon avis, très, très dommageable pour l'idée que peuvent se faire ces enfants des gendarmes. Voilà.
Est-ce que ça n'invite pas, je me souviens, à une phrase en disant « Les droits de l'homme, ce n'est pas la victoire des délinquants, c'est la fierté des policiers ».
Oui, d'une certaine manière, oui.
Et est-ce que il n'y a pas derrière une sorte d'équivalent de la dignité serait la fierté professionnelle de fonctions particulièrement difficiles à exercer, Jean-Marie Larue.
Moi, je pense aussi, et on parlait de la... Si vous voulez, les fonctions de garde dans la police aujourd'hui sont le fait des derniers sortis d'école. Dans les métiers pénitentiaires, tout le monde vous dira qu'on n'est pas entré par vocation, on est entré parce qu'on a raté les autres concours dans la pénitentiaire. Bon. Donc ce sont des métiers profondément dévalorisés. Moi je pense que ces métiers de contact, ces métiers de proximité, ces métiers d'assistance immédiate, ces métiers du concret sont au contraire des métiers qu'il faudrait revaloriser. Peut-être dans la rémunération, mais surtout dans l'idée que s'en font les responsables de ces professions.
Dans le regard qu'on porte sur eux, on voit à quel point il y a une sorte de transitivité du regard. On regarde sur l'autre, on reproduit sur l'autre le regard dont on est soi-même l'objet. Mais rassurez-nous, Jean-Marie Darue, vous avez aussi rencontré de l'humanité dans toutes ces fonctions au cours de ces 6 années.
Je crois même qu'il y a une majorité des personnels, toutes professions confondues, qui sont remarquables d'humanité. Il y a des gens qui sauvent des vies tous les jours dans ces lieux de privation de liberté, puisque les gens privés de liberté sont en profonde détresse. Donc il y a des gens absolument admirables. Ce qui m'intéresse plus du point de vue sociologique, c'est au fond, qu'est-ce qui est la norme dans ces lieux-là pour les professionnels. Et par exemple, il y a des normes d'humanité qui sont formidables. En même temps, il y a des normes préoccupantes comme le fait qu'il est insupportable, j'y ai fait allusion dans mon dernier rapport annuel, pour l'ensemble des personnels que quelqu'un songe à porter plainte dans ces lieux de privation de liberté. On ne doit pas se plaindre, on ne doit pas se plaindre. Et ça, quelle que soit l'humanité des personnes, ça c'est quelque chose qui est admis par tous les professionnels. Il est impossible que quelqu'un se plaigne, à la fois à la hiérarchie, à la fois au dehors, à un procureur ou à une association, peu importe. Et donc, tout est fait pour étouffer en quelque sorte ces voix-là.
Ou le disqualifier en disant c'est un procédurier.
Voilà. Donc moi, Et donc je crois que l'humanité est une chose réelle, je crois, chez beaucoup de personnel. Mais ce qui reste encore à déconstruire, c'est cette espèce ces espèces de normes implicites qui régissent pour tous les personnels la vie de ces lieux de privation de liberté. Et c'était pour moi une de mes tâches essentielles.
Jean-Marie Larue, six années passées à la contrôle général des lieux de privation de liberté. Vous parliez des banlieues, vous avez écrit un rapport qui a fait date sur la relégation en son temps. Quel regard ou quel espoir portez-vous sur le devenir de notre République ? Une République qui, par certains côtés, donne l'impression de douter d'elle-même, de douter même de son modèle.
Je suis très, très, très... Tiens, je vais prendre les mots d'un détenu qui un jour nous a écrit avec cette belle formule. J'en ai marre d'être patient. J'en ai marre d'une République défaitiste. J'en ai marre de cette sinistrose qui nous accable tous. Et comme je le disais récemment, il y a une chose que je n'ai pas acceptée durant ces 6 années. C'est pas l'insalubrité de certains lieux, c'est pas le comportement de certains personnels, qui reste l'exception, on l'a dit, c'est la résignation des pouvoirs publics devant ces situations. Quand j'ai rendu un avis public sur les violences qui entachaient le quartier des mineurs d'une maison d'arrêt du sud de la France, ce qui nous a épouvantés, c'est pas cette situation-là, c'est le fait qu'on nous dise « mais après tout, ils se tapent dessus, c'est dans leur nature ». Bon, et ça, je ne l'admets pas. Donc, cette République dont vous parlez, peut-être qu'elle est en crise aujourd'hui. Elle a connu beaucoup de crises. L'essentiel, c'est que chacun des nous, ou plutôt chacun des responsables de la République, y compris à un niveau très modeste, se sente responsable de la changer, de l'améliorer. Et dans l'esprit du contrôle général, je crois, nous avons essayé de mettre en œuvre de nouveaux modes d'administration, au fond. Et je vous en cite deux... La première chose, c'est que j'ai signé un certain nombre de milliers de lettres en réponse à des personnes qui nous saisissaient, que je n'avais jamais signées auparavant, du type « de grâce, tenez-nous informés. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on nous dit, ne manquez pas de nous le dire. Dites-nous si ce que nous vous disons contribue à effectivement améliorer votre situation. » Donc ça, c'est quand même un ton nouveau de l'administration. Et puis le deuxième exemple, c'est que moi, je n'étais pas jaloux d'avoir exercé un monopole. J'ai toujours cherché la complémentarité. Nous souhaitions travailler avec les magistrats, avec les journalistes, avec les associations pour œuvrer en faveur des droits fondamentaux. Donc, je ne craignais pas le monopole. J'appelais de mes voeux la concurrence. Ce sont là des modes administratifs que nous avons essayé d'inventer à notre petit niveau. Il revient à chacun des agents publics aujourd'hui d'inventer la République qui sera audible pour chacun de nos concitoyens et qui la rendra aimable au sens fort du terme.
Parce que ces personnels d'exécution qui sont peu considérés dans la République sont les véritables ambassadeurs, on pourrait dire, de la citoyenneté.
Exactement.
C'est eux qui donnent l'image concrète de la République. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Est-ce qu'ils vous ont répondu, ces gens-là, à qui vous avez écrit toutes ces lettres?
Je crois... Oui, on a engagé des dialogues profonds avec eux, je crois pouvoir le dire. Et puis dans les visites que nous avons faites aussi, où nous les rencontrons, à la fois ceux qui nous ont écrit et ceux qui ne nous écrivent pas, ceux qui ont peur de nous écrire, par exemple. Et puis avec les personnels aussi, moi j'en ai vu en tête-à-tête... Qui m'ont parlé avec beaucoup de franchise et avec beaucoup de simplicité et que j'ai beaucoup admiré. Moi, je crois qu'il faut que tout ça soit dit. Alors, on n'a pas de difficulté à faire parler les gens sur leur vie, éventuellement de souffrance. On a des difficultés plus à se faire entendre des administrations centrales. Au fond, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la capacité qu'a l'administration d'entendre des personnes tiers indépendants, avons-nous dit au départ, qui ne sont ni ministres donnant des consignes, ni lobbies soigneusement organisés pour faire pression sur cette administration, mais qui sont des personnes qui connaissent beaucoup de choses. Je pense que nous connaissons sur ces lieux des choses que ne connaissaient ni les policiers, ni les surveillants pénitentiaires, ni les gendarmes, ni les éducateurs. Et donc, il faut que l'administration apprenne à écouter les personnes indépendantes et leur expertise. Et de ce point de vue, je trouve que notre État est trop recroquevillé sur lui-même. Il compte trop encore sur ses propres forces, pour parler comme le président Mao, pour espérer avancer tout seul. On dit souvent « notre pays a besoin de débats ». Oui, peut-être. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de débats dans ce pays. Mais au fond, quelle est la capacité du politique à saisir ce qui sort de ces débats? Quelle est la capacité du politique à saisir ce qui sort de ces contrôles? Et quelle est la capacité du politique à saisir ce qui sort de ces recommandations?
Alors, on va revenir aux politiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un passage obligé que, dans le fond, nous n'avons toujours pas fait en France, qui est le deuil d'une certaine toute-puissance, qui est le deuil d'un modèle administratif pyramidal qui a fonctionné, qui a assuré l'égalité républicaine, je crois qu'il doit pas, il n'est pas du tout méprisable, mais qui aujourd'hui est à bout de souffle et demande à être renouvelé, mais il ne pourra pas l'être tant que cette prise de conscience ne sera pas assumée. Les fonctionnaires, l'État n'y suffiront pas, ils ont besoin d'un consensus élargi autour de pratiques et autour de la nécessité de ces tiers.
Moi, je pense, si vous voulez, que cette prise de conscience que vous indiquez comme nécessaire, elle a été faite déjà depuis une bonne trentaine d'années, me semble-t-il. C'est-à-dire que le modèle du fonctionnaire décidant tout n'est plus possible. Chacun en a conscience aujourd'hui. Je pense à des choses déjà un peu anciennes, comme la réforme du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les années 80, introduisait beaucoup plus de débats. On sent bien qu'aujourd'hui, l'ingénieur des ponts, pour parler image, hein, l'ingénieur des eaux et des ponts maintenant, s'appelle-t-il, n'est pas seul à décider la construction du viaduc, etc. Bon, tout ça c'est fait et je crois qu'on a multiplié les instances qui sont des instances de débat. La question qui me paraît essentielle, encore une fois, c'est de savoir si ces instances, alors, est-ce qu'elles sont suffisamment organisées pour que chacun puisse y venir, chacun s'y retrouver? Est-ce qu'on n'a pas recréé des pyramidages au fond instances-là? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu monopolisatrices pour ceux qui savent déjà s'exprimer? Et puis d'autre part, comment est-ce qu'elles sont écoutées? Là est une autre question.
Alors justement, ça sera peut-être une dernière question, mais c'est la plus importante. On dit que les institutions naissent et pourrissent par la tête, hein, oui. Pour le vent. Quid de la tête? Quid de la prise de conscience des politiques ou du sommet de l'État de cette nécessité, Jean-Marie Delarue?
Alors, moi, je dois reconnaître très, très humblement que les chefs de l'État, et j'en ai connu deux qui se sont succédés, ont toujours marqué un intérêt pour nos travaux, m'ont reçu, j'ai pu m'expliquer devant eux aisément. Et donc, il y a, je crois, de la part de ces chefs d'État, un souci réel aujourd'hui de faire remonter l'information. Est-ce que l'administration française est capable de leur faire remonter? est-ce que cette hiérarchie dont vous parlez n'édulcore pas les choses? Est-ce que la réalité peut venir à leur perception? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai une caricature à donner de ce relatif aveuglement. C'est le redécoupage régional qui est intervenu il y a quelques années. On sentait qu'à 20h, il y avait une carte qui associait l'Alsace et le Languedoc, et à 21h15, la Bretagne et le centre. Voilà.
Bien, Jean-Marie Delarue, merci. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Alex Dang. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se reporter sur le site de France Culture où ils auront accès aux liens notamment pour le site du contrôleur général. La semaine prochaine, le Bien commun s'intéressera au financement participatif, le crowdfunding, avec Anne-Valérie Le Fur qui dirige dans le réseau Trans-Europe Expert un groupe de travail sur le sujet.